Je suis Zoubi Dafal et vous êtes dans le podcast Conversation Féminine. Journaliste, entrepreneuse culturelle, slameuse, elle crée et dirige le premier centre de danse urbaine au Sénégal à son retour après des études à l'école des médias de l'UQAM. Fille unique, élevée par une mère célibataire, elle décide de faire des études de journalisme afin de dénoncer les injustices qu'elle voyait dans sa famille et son entourage. Nous lui devons Cauchemar d'entrepreneur, émission radio, d'abord podcast, sur Sud FM, qui tous les jeudis et durant 4 saisons a traité de sujets d'entrepreneuriat sans filtre et sans tabou. 70 épisodes plus tard, Cauchemar d'entrepreneur tire sa révérence. Celle qui se définit comme, et je la cite, « femme africaine, millennials avec trop de passion, ayant comme seul talent de vouloir être utile à la société, à travers celle-ci, poursuivre l'éternité en saisissant le présent, permettre à la grandeur du monde de réaliser ses rêves, uniquement grâce au travail acharné, à la pleine conscience, à la positivité et à la solidarité. » Mariam Touré, bienvenue dans Conversation Féminine.
Merci, merci Zoubida. Waouh, je suis émue, j'ai les larmes aux yeux. Là.
Oh, ça me touche.
C'est incroyable. Franchement, ouais, j'ai... Ouh, ok.
Je suis contente.
Je suis... Je ne pense pas avoir déjà entendu une bio qui soit aussi vraie.
Merci beaucoup.
Non, c'est moi qui te remercie.
Je suis aussi heureuse parce que c'est important pour moi. C'est important pour moi de montrer ce respect-là et cet égard-là à chacune de mes invitées parce que vous le valez toutes. Et je pense que c'est important qu'on se dise des choses comme ça.
Ça fait plaisir. C'est toujours, en fait, je pense, émouvant lorsque la personne prend le temps, lorsqu'une personne en face prend le temps de nous regarder. Pas juste de nous voir, de nous regarder. Pour comprendre les différences, les couches qu'il peut y avoir à une personne. Mais c'est un moment où j'ai eu l'impression d'être vue, finalement, d'être regardée, d'être vue. Donc, merci à toi.
Merci beaucoup. Je le prends aussi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotion. Merci pour ça. Je suis heureuse de t'avoir, Mariama. On se voit. On se croise dans Dakar depuis un certain nombre d'années. Je te vois évoluer, même si on n'en parle pas souvent. On se parle par, on va dire, réseaux sociaux interposés. On se croise entre Instagram ou Facebook, etc. Et on n'a jamais pris la peine de s'asseoir. Je voulais prendre cette peine-là de pouvoir te dire je suis fière, heureuse, contente de te voir évoluer et de continuer à faire toutes ces belles choses que tu fais. Vraiment.
Ben, merci beaucoup. Ça me touche, surtout 10 ans après avoir démarré un peu ce chemin d'entrepreneur. Ça fait 10 ans cette année. Et 10 ans plus tard, il y a toujours autant de questions de « est-ce que j'aurais dû, est-ce que je devrais ?»
Oui.
Et donc, de recevoir un peu des félicitations, des remerciements, ou en tout cas juste un bravo, good job, girl.
Ouais, oui,
parfois, c'est un peu... C'est drôle, hein, mais peu importe la personne de qui ça vient, c'est un peu comme quand ta maman te dit « tu as bien travaillé,
oui.
Bien
de
toi ». Je suis comme « ok, je vais continuer, c'est bien ».
Non, mais je suis super contente. Et d'ailleurs, ça me permet justement de pouvoir parler de ça, d'entrepreneuriat. J'entends entrepreneuriat, je suis dans le même parcours. Mais comment on fait, on entreprend dans les danses urbaines? Comment tu en viens à ça?
Comment on en vient à ça? Je pense que ça commence par... une passion, une passion, mais aussi une capacité à comprendre son environnement et à saisir des opportunités. Donc, moi, je danse depuis que je suis petite. C'est un peu mon exutoire. Depuis que j'ai 8-9 ans, j'ai réalisé que le mouvement me permettait d'être. Petite anecdote, même en étant malade, à partir du moment où je ne peux pas bouger, j'ai l'impression d'être en prison. Donc, il me faut bouger. Mais c'est aussi, au-delà de ça, une capacité qui a été apprise, je ne sais pas, mais à très rapidement regarder autour de moi et à me dire, mais il y a des gens qui sont comme moi. Il n'y a pas d'opportunité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux faire quelque chose? Et aussi, j'ai envie de dire facilité, même si le terme-là peut être pris légèrement, mais quand même, je vais dire, c'est une aptitude. Donc, pour moi, c'est facile, plus que pour d'autres personnes, de me mettre en action. Et donc, je danse pendant que je suis adolescente et j'ai la chance de partir faire mes études à l'étranger, de danser dans des structures qui existent. Et je rentre au Sénégal. J'ai envie de continuer à danser. Je n'ai jamais dit je veux devenir danseuse professionnelle. Je suis journaliste de formation. C'était pas possible à l'époque de dire je veux devenir danseuse à des parents qui sont en train de payer pour ton éducation. Et donc, ça a toujours été une passion. Mais en même temps, c'était important pour moi de pouvoir continuer à explorer mon être. Donc, quand je rentre, je regarde à gauche, je regarde à droite, je dis, bon, on dirait que tu es un peu vieille, hein? Tu vas pas aller danser sous le pont. Littéralement. Parce qu'avant, je dansais dans la rue. Je dansais avec là où je trouvais des danseurs, j'allais très rapidement quand je pouvais. Et donc, comme ça, je réalise que Dakar, qui est une capitale vibrante, qui est une capitale culturelle, qui est connue pour sa musique, qui est connue pour le côté fashion, qui est connue pour juste. On aime la culture, ben, n'a pas de salle de danse. Je suis une enfant des années fin 80. Le hip-hop, c'est ce que je connais. Et donc, je me dis, ben, on va créer le premier centre de danse urbaine au Sénégal.
Mais voilà, c'est ça le problème.
Bilal, c'est ça le
C'est
problème.
ça le problème. Mariama, tu vas faire, on te paye des études. UCAM, quand même, UCAM. École des médias, journalisme. Déjà, tu rentres. Déjà, tu rentres.
C'est vrai, hein, c'est important ce
Mais oui, il faut qu'on en parle. Déjà, tu
que
rentres. Tu rentres, tu ne rejoins aucune rédaction. Tu veux devenir, certains parents diront, saltimbanque. C'est quoi ton problème? Mariama, c'est quoi ton
Joker.
problème? Joker, exactement. Encore pour ceux qui nous écoutent, vous devez bien vous douter que c'est de la blague. Ce n'est pas. Bref, tu décides d'aller danser. Et il faut aussi le dire, on peut blaguer en disant saltimbanque, c'est vrai, mais les métiers de l'art et de la culture ne sont absolument pas valorisés.
Ouais.
Ni dans nos propres familles. Qu'est-ce que tu fais? Fais chicat là. Tu vois ce que, jusqu'à présent, on pensait que c'était dur dans les années 70, dans les années 80 d'être artiste. Je ne pense pas que ça ait beaucoup changé dans tous les cas. Et donc, comment tu fais toute cette transition-là? Un, tu rentres. Deux, tu ne vas pas dans une rédaction. Toi, tu décides de devenir fait chicat. On fait ça comment?
Non, rarement expliqué. Rarement expliqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ma décision de rentrer, finalement, elle n'a pas été trop controversée parce que je ne me suis jamais vue vivre dans un environnement autre qu'un environnement africain, pour dire
Pas
ça comme
sénégalais,
ça.
africain.
Pas sénégalais, africain. Je pourrais me lever aujourd'hui et aller habiter au Ghana, ou au Bénin, ou encore en Afrique de l'Est, au Kenya, peu importe. Et ça, je l'ai toujours clairement annoncé à mes parents. Je ne me vois pas vivre dans un pays où je ne vois pas mes frères noirs, pour dire ça concrètement. Et ça n'a jamais vraiment été débattu chez moi. Mon père était un grand panafricaniste. Ma mère est quelqu'un qui avait aussi choisi de rentrer après ses études. Et donc, ça n'a pas été débattu. Cependant, quand je suis rentrée, oui, la question a été, bon, tu vas prendre un boulot. Mais j'ai pris un boulot, hein. Ah si, 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 je suis allée rejoindre une rédaction, j'en ai rejoint une, j'en ai rejoint deux, j'ai pris des postes dans des magazines, etc. Donc j'ai fait du journalisme pendant un certain nombre d'années. La chance, j'ai envie de dire que j'ai eue, c'est que simultanément, j'avais envie de créer l'école de danse et j'ai démarré ma recherche en termes de possibilités de créer ça. Et je l'ai créé à côté de l'emploi que j'avais. C'était le seul moyen de rassurer les parents africains. Old school. Tu te lèves pas pour dire je laisse tout. J'ai payé autant d'argent d'ailleurs. Ma mère, elle m'a bien dit ça. Donc, soit comme on dit,
Exact.
c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas de l'argent perdu parce que ça participe à une éducation, ça participe à qui je suis, ça participe aussi à comment j'ai géré The Dance Hall, comment j'ai géré ma carrière professionnelle, etc. Ça contribue à qui je suis. Lorsque j'ai trouvé l'endroit où allait naître le premier The Dancehall. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais rentrée. Donc, je suis rentrée en 2011, c'était en 2013. Et c'est pas une bonne idée de l'annoncer dans ton podcast. En fait, j'ai menti. La vérité, j'ai menti. Parce qu'il fallait que je justifie d'où allaient venir les finances pour mettre en place le dancehall. Et à l'époque, j'ai dit à ma mère qu'on m'avait prêté l'espace. Et que la personne qui m'avait prêté l'espace avait aménagé l'espace. C'est faux. Aujourd'hui, je l'avoue, 10 ans plus tard, c'est pas grave.
C'est pas grave, il y a prescription.
Il y a prescription. Pendant 2 ans, j'avais économisé l'argent de 2 emplois pour pouvoir mettre 6 millions. 6 petits millions à l'époque.
Ouais. C'était beaucoup quand même.
C'était énorme, je dis ça ironiquement. Ouais. J'avais 24 ans.
À 24 ans, tu es pas... Oui, c'était beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup,
c'est
beaucoup.
C'est énormément d'argent. Et donc, à ce moment-là, j'ai mis tout ce que j'avais gardé de côté pour pouvoir créer The Dancehall, mais en ne disant pas que j'avais mis de l'argent dedans. Donc, c'était zéro risque pour la famille. C'est, ah, OK, c'est une activité après le travail exact. Et dans lequel on n'a pas mis d'argent.
Oui.
Y a pas de problème.
Ça passe mieux. Hein?
Ça passe.
Oui, ça passe. Ça passe toujours. Et c'est une discussion qu'on a très souvent où dans nos familles, en réalité, on ne te pousse pas vers ça, vers explorer d'autres pistes qui ne soient pas... Explorer des sentiers, être hors sentier, hors piste, hors route, ce n'est pas forcément quelque chose qui est permis. Et je ne sais pas d'où vient, je peux comprendre d'où vient cette peur. On vit dans des pays assez compliqués où rien n'est assuré. Quand tu peux t'assurer un revenu à la fin du mois, autant le faire. Mais tu pars sur ça, tu mets de l'argent là-bas, tu n'avoues pas que tu as mis de l'argent et tu démarres. Et pendant 2 ans, tu dois jongler en même temps ton travail en rédaction et The Dance Hall.
Absolument. Ça m'a valu un divorce. Entre autres choses.
Oui, c'est vrai. C'est très vrai.
Oui. Parce que à ce moment-là, je ne réalise pas que The Dancehall va être une entreprise qui va prendre énormément de temps dans ma vie, d'énergie, de finances, etc. Je ne réalise pas en créant The Dancehall. Moi, je suis en train de suivre ma passion. Après, j'ai choisi la forme entreprise. J'aurais pu dire, je fais un groupe, je fais une association, on fait un truc. Mais je ne sais pas qui je suis. J'aime quand les choses sont carrées. Et puis surtout, je me suis dit, tant qu'à faire, il faut que je fasse de l'argent. Je mets un espace en place. Oui, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de prendre des cours. Et donc, je peux compléter mes revenus avec ça. Et donc, pendant les 2 premières années, donc de 2013 à 2015, littéralement, je quitte chez moi, il est 7 heures, parce que après, je quitte une rédaction et je rejoins une agence de l'État où je suis chargée de com et où, donc, à 8 heures, je dois être là. Donc, je quitte le matin à 7 heures, je finis à 17 heures et j'enchaîne à The Dancehall. Et j'avais choisi à l'époque, justement, ce format où on ne travaillait que les fins de journée parce qu'il me fallait pouvoir finir un premier emploi pour enchaîner sur le deuxième. Et on faisait des cours jusqu'à 20 heures. Et donc, on finissait à 20 heures, le temps de finaliser, de reprendre la voiture, de se retaper les embouteillages de la VDN, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le prolongement. Et j'habitais à Perpète-les-Oies. J'étais chez moi à 21h, 21h30, et on travaillait et le samedi et le dimanche.
Oui.
Donc, pendant 2 ans, oui.
Oui.
J'ai eu des crises de larmes dans ma voiture.
Ah oui, oui, je pense que ça fait partie de ce parcours-là. Et ça me permet d'enchaîner sur le fait d'être une femme et de devoir gérer ça. Parce que ma conviction est que c'est les hommes ne font pas face aux mêmes difficultés quand ils entreprennent que les femmes en vrai. Parce que tu as cumulé plusieurs choses. Tu t'es mariée à la même période que tu es rentrée.
Absolument. Non, mauvaise idée, mauvaise idée.
Mauvais calcul, tu t'aimes.
Les calculs sont
je
pas
le dis, bon. Je le dis, je suis très mal placée pour dire ce genre de choses. Je me suis mariée super tôt comparée à... Je me suis mariée à 24 ans, donc je suis très mal placée pour pouvoir dire à quelqu'un tu t'es mariée trop tôt. Mais je pense que quand même, tu étais dans une époque charnière où tu as coché les cases parce qu'il va falloir qu'on en parle en termes de place, c'est-à-dire tu es rentrée dans le moule, tu as trouvé le travail qu'il fallait que tu trouves, tu t'es mariée parce que Jigen devait essayer, tu t'es mariée et tu as lancé ton entreprise en même temps. Je pense qu'à un moment, il fallait qu'un lâche.
Oui.
Non, mais sérieusement, hein, sans aucun truc, je pense pas que pour une femme, ça puisse être possible en un espace-temps aussi court de pouvoir gérer ces 3 de fond. Pour une femme, dans nos espaces sénégalais, entendons-nous bien que ça puisse fonctionner.
Et à un certain âge également, parce que l'âge y est pour beaucoup. Je pense que à 35 ans ou à 40
j'aurais
ans.
J'aurais mieux géré.
Et absolument, parce que j'aurais eu beaucoup plus de bagages. Mm-hmm. J'aurais peut-être eu aussi plus de références. Mm-hmm. J'aurais pu venir, Zoubida, comment je fais ça?
Exactement, oui.
Agnelen, Agnelen. Mm-hmm. Mais c'était très compliqué à cet âge-là. Je venais de rentrer, ce qui veut dire que j'étais aussi un tout petit peu déconnectée de ma société.
Complètement.
Et puis avant ça, c'est pas comme si quand tu pars à 17 ans, en réalité... Tu es une enfant, tu sais pas ce qui se passe. Mm-mm. Tu sais même pas ce que les gens attendent de toi en réalité.
Même toi, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie.
En vrai, tu sais même pas qui tu es.
Non, clairement.
Et donc, oui, ça a été très très difficile pour moi, déjà de comprendre la place de la femme au Sénégal, ensuite de la femme professionnelle, parce que je rentrais dans le milieu professionnel... Ensuite, de la femme entrepreneur, donc ça veut dire, pas juste professionnelle, je me lève le matin, je vais au bureau, mais go-getter, je défonce des portes, je veux ça, je demande des financements, je tape aux portes et puis j'ai pas peur, en fait. Ça, c'était incroyablement dur. Et puis oui, j'avais choisi de me marier.
Et tu es épouse.
Exactement. Et je n'avais aucune idée de ce qu'on attendait d'une épouse. Mais aucune idée, d'ailleurs... Franchement, mon ex-mari, je pense que lui-même n'avait aucune idée de ce qu'on attendait d'un époux et d'une épouse. Donc, on a découvert tous les deux ça. Et puis, en plus, le travail était prenant, les finances étaient serrées. Non, mais franchement, j'ai appris beaucoup de choses, mais je ne le souhaite pas à
quelqu'un de
même à mon meilleur ennemi.
Non, mais clairement pas, clairement pas. Et du coup... Parce qu'en disant tout ça, je suis partie du principe que tu as coché des cases. Parce que dans ma tête, on nous met plus ou moins dans un certain chemin. On nous place dans dans un couloir. Et nous devons avoir des checkpoints réguliers qu'on doit cocher, des jalons qu'on doit respecter, etc. Et du coup, je suis partie de ce principe-là en te parlant. Mais en vrai, ce serait peut-être mieux de te poser la question. Est-ce qu'il y avait une place qui t'était destinée?
Non.
Non.
Non. Zoubida, si je dois être honnête avec toi, il n'y avait pas de place qui m'était destinée. Et ça, c'est ma plus grande bénédiction. Maintenant qu'on en parle, tout de suite, ma réflexion, c'est de me dire, est-ce qu'il n'y avait pas de place qui m'était destinée ou est-ce que j'ai toujours refusé cette place?
Exact.
Et donc, à un moment donné, j'ai éclaté les barrières. Parce qu'il faut le dire, moi, je suis enfant unique du côté de ma mère, qui est une mère célibataire. Mais qui aussi est une mère traditionnelle. Mais le fait d'avoir été célibataire toute sa vie, ma mère ne s'est jamais mariée, et d'avoir dû m'élever, faire sa place, faire son argent, se battre dans une société difficile, ça a fait d'elle aussi quelqu'un qui permettait la différence. Donc bien que, je pense dans l'idéal, elle aurait voulu que son enfant peut-être ait un parcours plus traditionnel, moins atypique que le sien qui a été difficile, mais en même temps, il n'était pas question pour elle de dire « voilà ce que tu dois être forcément, voilà ce que tu dois faire forcément ». Ou en tout cas, il n'était pas possible de le communiquer comme ça.
Dans le schéma que tu viens de décrire, il n'y a pas de présence paternelle.
Il n'y a pas de présence paternelle immédiate.
Proche immédiate.
Absolument.
Oui.
Mais j'ai eu un père formidable.
Il y a le poids de la présence ou pas?
Non, il n'y a pas de poids de présence.
D'accord.
Parce qu'en fait, il y a plutôt le poids de l'absence.
Oui. Oui, je comprends.
Parce qu'en réalité, moi, j'ai connu mon père assez. Enfin, je le connaissais, mais j'ai eu des rapports avec lui assez tard dans ma vie. Donc, il y a plutôt le poids de l'absence. Mais la chance, et ça c'est une chance aussi, c'est une bénédiction, c'est que mon père, lorsqu'on a commencé à avoir des rapports à distance, les peu de temps qu'on avait à passer ensemble étaient des temps de qualité et où il m'ouvrait les yeux sur la vie et où il me libérait de toute chaîne et où il me disait « tu as le droit de te définir, tu as le droit de dire qui tu as envie d'être, tu as le droit de ne pas accepter ». Tu as le droit de combattre ce que tu estimes être une injustice pour toi ou pour les autres, parce que c'est ce que lui a toujours fait. Mon père a été journaliste. Et je crois que ça a toujours été dans the back of my head, à l'arrière de ma tête toujours, en fait. Et je l'ai porté avec moi dans tous les choix que j'ai eu à faire. Parfois même contre ma mère. Parce qu'en réalité, je me disais, mais... Pourquoi est-ce qu'il faut que je choisisse j'ai le droit d'être plusieurs choses. Et si toi, ce qui te fait plaisir, c'est juste d'être sûr que ma sécurité financière est assurée, que l'argent qui a été dépensé pour mes études n'a pas été gaspillé, OK, I'm gonna do that. So here, voilà le job. Oui, ça, j'ai coché une case. Tout en disant que je ne l'ai pas coché contre mon être, parce que j'ai choisi ce que je voulais faire. Mais j'ai dit, OK, mais je vais aussi cocher une deuxième case, parce que je suis aussi artiste.
Oui.
Et je vais continuer à explorer ça. Oui, là, par contre, non, ce n'était pas vraiment
clairement pas.
Mais là aussi, j'ai eu beaucoup de chance d'être une enfant éclairée par son père, qui lui aussi, je pense, au fond, était peut-être un peu artiste.
Exact.
Et qui, de temps en temps, quand il lisait ma poésie ou mon slam, me disait, oh my God, je suis trop fière de toi. Oh. Et rien que ça, parce que ça avait un poids peut-être plus grand que s'il avait été là, ça prenait plus de place dans ma décision. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
Très, très bien. Un peu trop bien. Même.
Le fait qu'il ne soit pas là,
exact,
donnait encore plus de poids à ce qu'il pouvait me dire. Et donc, finalement, j'avais envie d'être plus de ça parce que je voulais plus de lui, parce que je voulais plus de cette relation.
Ouais. J'ai grandi, en fait, avec un père que je voyais une fois par an parce qu'il ne vivait pas au Sénégal. Je le voyais une fois par an, on va dire 3 semaines peut-être. Et je savais que s'il allait venir, mais je savais aussi qu'il allait repartir. Donc, j'ai grandi qu'avec une mère. Même si elle n'était pas célibataire, voilà. C'est ça aussi, tout ce poids de l'immigration, dans notre cas, ainsi de suite. Et par contre, dans ce que tu dis, ça m'interpelle. Parce qu'effectivement, les compliments de mon père, la fierté de mon père, etc., ont toujours été beaucoup plus importants que ce que ma mère pouvait dire ou qu'elle pouvait penser ou le chemin même qu'elle pouvait tracer pour qu'on puisse y passer. C'est arrivé à l'âge adulte que j'ai fait la réflexion et que je me suis réconciliée avec cette partie d'elle et qu'on a retrouvé une relation plus apaisée. Parce que je me rends compte qu'elle n'avait pas le choix. Quand j'ai compris cette notion-là, qu'elle n'avait pas le choix parce qu'elle devait assumer 2 rôles en même temps, le porter et l'obligation de fermeté n'était qu'à son niveau.
Absolument.
L'obligation de ma réussite ne reposait que sur ses épaules à elle, parce que quelqu'un qui vient une fois par an ou même quelqu'un que tu vois, comme tu dis, de temps en temps, n'a pas cette implication au quotidien où tu dois gérer tous les revers de la situation. Et donc, ils ont le bon rôle.
Ouais.
Je leur en veux absolument pas. Aujourd'hui, je crois que j'ai fait ce travail-là et je suis beaucoup plus apaisée par rapport à toutes ces questions-là. Mais moi, ça m'a permis en tout cas de revoir ma mère d'une autre manière et d'avoir de l'indulgence par rapport à avoir du respect pour la femme qu'elle est parce qu'elle a dû être mère et père, mais avoir aussi de l'indulgence pour les choses que j'ai considérées à un moment qu'elle n'avait pas forcément bien fait. Donc, tu vois, cette conversation, tu me ramènes à cette partie-là et ça aide.
Je suis totalement d'accord avec toi et je crois que d'ailleurs, c'est peut-être là où j'en suis moi dans mon parcours de femme et d'enfant, parce que comme on dit, tu restes toujours l'enfant de quelqu'un.
Exact.
C'est d'essayer de réconcilier un peu tout ça, de comprendre le rôle qu'un parent a pu jouer, pourquoi, comment, et surtout d'accepter finalement les conditions qui ont mené à ça.
C'est ça.
C'est un véritable travail, je pense.
C'est un vrai travail.
Mais il ne faut pas qu'on néglige le poids des décisions, des choix, des mots,
Et l'impact
des parents,
et l'impact que ça a eu sur nous,
sur tout dans notre vie.
Oui.
Pour les générations futures, aujourd'hui, lorsqu'on a la chance d'être parent, c'est aussi de prendre peut-être ce rôle-là un peu plus au sérieux et de se dire, en fait, les meilleurs, de femmes impact, mais les meilleurs rôles aussi. Si ça ne marche pas avec un père ou que la personne est plus loin, etc., ça a un poids, cette absence. La présence a un poids. L'absence a un poids. Et je crois que finalement, oui, ça fait de nous ce qui nous sommes aujourd'hui. Moi, je me définis comme quelqu'un de très indépendant.
Un peu trop, d'ailleurs.
Un peu trop, d'ailleurs. Non, oui, ça, je suis sûre que mon mari, s'il écoute ça, il dira oui, oui, oui. Mais je crois que ça, c'est un héritage, justement.
Ça vient de là.
De ça.
Take all my mind, take all the joy now. Take me down, take all the love now. Tie me away, burn me alive now. Break me down right now.
je suis convaincue que ça vient de là. Je suis pareil. Je ne sais pas demander de l'aide.
Ouais.
Je ne sais pas me reposer sur quelqu'un. Je ne sais pas compter sur quelqu'un. On se réveille tous les jours. On va se fighter pour pouvoir avancer.
Mais oui, on peut tout faire.
Exactement. Et j'ai commencé à poser toutes ces questions-là, surtout sur la parentalité, quand j'ai été à mon tour mère.
Ouais.
Et que de comprendre que mes choix, mes décisions, mes propos, ma manière d'être avaient un impact sur un être qui n'avait absolument rien demandé.
Ouais.
Et je ne crois pas du tout à cette obligation de redevabilité, en tout cas imposée dans nos sociétés, des enfants vers les parents.
Ouais.
Et pour m'en départir et le garder en même temps, j'ai dû faire un énorme travail. Je ne sais même pas si ce que je dis fait sens. Parce que mes parents aujourd'hui, je ferai tout et n'importe quoi pour eux. Mais pas dans le sens où je suis obligée de faire cela pour eux. Je ne sais pas comment l'expliquer.
Je comprends, c'est une volonté parce que maintenant
j'ai dû faire ce travail-là. Exactement, j'ai dû faire ce travail-là.
Et donc oui, je comprends absolument.
Exact. Et du coup, de dire aussi quand tu as un enfant, comment je vais éduquer cet enfant, parce qu'on ne les livre pas avec un mode d'emploi.
Clairement.
Et du coup, je comprends mieux ma mère. J'ai beaucoup plus d'indulgence. Elle était toute seule. Moi, au moins, j'ai quelqu'un à côté avec qui on va. Et vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas les mêmes choix d'éducation, vous n'avez pas reçu la même éducation, il faut gérer.
Ça rend les choses plus compliquées, mais plus intéressantes, parce qu'au moins on a de la diversité. Mmh. Il n'y a pas qu'une seule personne, seule avec ses pensées, qui éduque. Et c'est pour ça, je pense que longtemps en Afrique, on a dit, il faut un village, il faut un écosystème.
Exact.
Et la figure parentale, elle ne vient pas forcément du géniteur ou de
on
la
est
génitrice.
D'accord.
Mais on a au moins besoin de personnes avec qui on va venir balancer nos idées, nos choix, nos décisions pour cet enfant ou ces enfants-là. Et ce qui reste absolument incroyable, et je pense, dont on ne mesure pas encore l'impact dans cette société, c'est vraiment de se dire, oui, ça aura un impact sur l'enfant aujourd'hui, mais en réalité, là, quand il aura 40 ans, il te dira, ah, mais en fait, je suis ça parce que ça s'est passé quand j'avais 7 ans. J'ai envie de ça parce que, voilà. Et ça remonte toujours à l'enfance et aux images, aux influences, aux exemples et aux mots.
Beaucoup. Ce que tu dis concernant la figure paternelle, l'éducation, qu'il faut un village, un écosystème, tu me ramènes à une conversation que j'ai eue avec ta presque Tourondo, Marema Touré Cham, et justement où elle parlait des trois figures de mère qu'elle a eues. Elle a eu sa mère qui l'a mise au monde, mais dont elle n'a jamais mangé les petits plats, par exemple, parce que sa mère ne cuisinait pas forcément, elle devait aller gagner sa vie. Non. Mais il y avait deux autres femmes. L'une était sa tante, l'une était la voisine, qui tous les autres rôles de mère, tous les autres rôles de mère ont été portés par cette femme-là. Donc, elle a trois mères. Et du coup, ce que ça crée chez elle, c'est qu'elle ne dissocie pas ses frères et sœurs utérins des frères et sœurs de ses deux autres mères, des frères et sœurs qu'elle a eues de ses deux autres mères. Et cette conversation était magnifique. Si tu ne l'as pas écoutée, je pense que ça va te parler, de reparler de la fratrie, de la famille, de comment on se construit par rapport à tout ça, et de comment la mère peut décider de ce que peut être la vie, l'influence du père. Je pense qu'il faut réécouter cette conversation.
Je vais l'écouter avec beaucoup de plaisir et ça a tellement de sens ce que tu dis. Pareil, moi, j'ai une de mes tantes que j'appelle Yaebo et pour moi, oui, c'est ma maman en fait. Parce qu'effectivement, je lui ai dit, parce qu'effectivement, ma mère était battante, fallait qu'elle aille travailler, fallait que. Je passais du temps avec elle et en réalité, quand tu passes devant les voisins, il faut dire salam alaikum. Il faut qu'on te l'apprenne pour que tu le saches.
Totalement.
Il faut que quelqu'un soit avec toi pour
totalement.
Que tu le saches. Et plein de petites choses qui relèvent de l'émotionnel. Parce qu'elle avait le temps de me regarder, d'être avec moi et d'avoir ces conversations-là que je n'ai pas eu la chance d'avoir peut-être avec ma mère. Et oui, donc la figure maternelle ou la figure paternelle, ce n'est pas forcément la personne qui nous met au monde ou le géniteur.
Oui, on est bien d'accord. Et ce que j'ai envie de te demander, c'est est-ce qu'il y a eu un moment de ta vie où tu t'étais rendu compte que tu es une femme?
Alors, je pense que le moment où je m'en suis rendu compte, c'était à travers l'entrepreneuriat. Mais je m'en suis rendu compte en même temps que des limites que ça représentait. Parce que ça aurait pu être « Ah, mais en fait, je suis une femme, je peux jouer de ceci, je peux jouer de cela. » Non, ça a été « Ah, je suis une femme, c'est ça le problème. » C'est comme ça que ça a résonné dans ma tête. Parce que Et je suis une jeune femme, je remets ça
c'est
aussi.
C'est deux problèmes.
C'est deux problèmes. Parce que quand tu es une femme au Sénégal et que tu as 55 ans, 60 ans et que tu as porté le grand abaya et que tu as mis le foulard, quand tu rentres dans un bureau, il y a un petit respect. Quoi.
Tu me remets chez Fatso, professeur Fatso, et on a eu ça. Elle dit maintenant, avec son âge, elle peut se permettre.
Mais oui, mais oui. Non, mais c'est une véritable condition, c'est des étapes. C'est comme si on te donnait des médailles au fur et à mesure.
Exactement.
Et donc, comme maintenant tu as telle médaille, c'est bon, on peut t'écouter. Tu as de la valeur. Et oui, c'est arrivé parce qu'au début, avec The Dancehall, jeune, créative, trop ambitieuse que je suis, plein de projets, de parcs créatifs, de ceci, de cela. Et donc, j'allais taper aux portes des ministères pour leur dire, écoutez, vous n'avez peut-être pas les idées, je les ai. Vous avez l'argent, donnez-moi, je vais faire. Et donc, pourquoi tu rigoles? Je ne comprends pas. Tu rigoles? Mais littéralement, je faisais des dossiers. En plus, je suis douée pour faire des belles images, des beaux dossiers, tout ça. J'imprime parce que moi, à l'époque, c'est pas comme si tu envoyais un mail, on
allait
calculer, tu déposes le dossier, tu frappes aux portes. Et en fait, quand le monsieur, parce que dans nos instances, c'est essentiellement
c'est toujours un monsieur.
Des messieurs, c'est essentiellement des messieurs d'un certain âge.
On est d'accord aussi.
Tu as 26, 27 ans, 28 ans, tu arrives, bon, t'es bien habillée, mais quand même, tu as l'allure d'une petite fille. Exactement. Parce que pour eux, t'es
pour
une petite
eux,
fille.
Une petite fille, littéralement.
Littéralement. Et tu arrives, et en fait, on te regarde, mais tu sens qu'en fait, il y a un manque de sérieux, quoi. Comme ils ont dit, il y a un manque de sérieux, quoi.
Non, mais c'est complètement.
Alors que pour toi, c'est un moment qui est important parce que tu l'as préparé pendant des semaines. Tu dis, voilà ce que je vais dire. Il faut qu'il se concentre sur le contenu. Et tu commences à faire attention à, OK, je vais pas trop en faire parce que sinon, il va se concentrer sur autre chose. Ouais. Peut-être qu'il va avoir envie de me proposer des choses en échange.
Toujours.
Et donc, tu arrives un peu fermé physiquement. C'est pas l'attitude que j'ai avec toi où je dis, non. Et tu te rends compte très vite, en fait, que tu parles à un daron qui est dans le politiquement correct, qui te prend pas au sérieux, qui se dit, mais, allez, bougie, gagne, bécoum, yep.
C'est exactement ça.
La place de la femme, c'est à la cuisine.
À la cuisine.
La place de la femme, c'est à la cuisine.
Est-ce que non, d'elle, tu vois, ennemi?
Mais vraiment.
Et oui, je m'en suis rendu compte ici, au Sénégal, en tant qu'entrepreneur, quand j'essayais de frapper à ces portes-là. Mais j'ai très vite abandonné cette idée de « je vais le faire malgré tout » et j'ai choisi de contourner. J'ai dit « tu sais quoi ? Ok, je vais faire assez d'argent pour tout pouvoir faire toute seule et ne pas avoir besoin de dire « j'ai besoin de vous ». Et c'est depuis 10 ans comment je travaille.
Mais ça, c'est dur aussi.
Dur, qu'est-ce que c'est ?
Ça, c'est très dur, hein.
Ah, moi, je vais t'envoyer mon bilan comptable. Fofnatol.
Non, mais sérieusement.
Mais oui, c'est très, très dur.
C'est très dur, surtout que tu as lancé quelque chose qui n'existe pas. Donc, tu as lancé un nouveau métier. Tu as créé ta propre concurrence.
Oui, mais dis ça plus fort, s'il
mais
te plaît.
Mais c'est la
j'ai
réalité.
J'ai créé ma propre concurrence.
Mais parce que je sais.
J'ai
suis
formé
en train...
mes propres concurrents.
Mais je sais. Je le sais.
Mais c'est pas grave.
Et du coup, non.
Mais
c'est
pas
grave. Place. Exactement. Après, on va vivre, je sais pas. Ok, bref, on va vivre.
Tu sais, je me suis dit, petite, avant que tu continues, je me suis dit, là, c'est nos 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire des t-shirts et je vais écrire dessus 10 ans d'avance.
10 ans, oui.
J'ai 10 ans d'avance.
T'as 10 ans d'avance, je te jure.
C'est pas grave.
Non, mais...
Juste pour te dire, c'est pas grave. On le fait ensemble, mais j'ai quand même 10 ans d'avance dans,
tu
cette,
vois,
dans ce
non,
game.
Mais... Tu rassembles tout ça. Et tu vas voir quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi une danse urbaine, qui ne comprend pas comment on peut avoir un business model qui fonctionne par rapport à ça, qui n'a jamais entendu parler d'un centre de danse urbaine, qui ne sait pas qu'on peut faire ça hors d'une association ou d'un GIE ou d'un machin. Mais Mariam,
quand il y a... faire de l'argent avec.
Wow. Mais quand il y a... Je suis en train de te dire ce qu'on me dit des Instants B. Je suis en train de te renvoyer toutes les choses que j'entends. Toutes les choses que j'entends. Mais genre, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais exactement?
Non, mais ça, pour être honnête, jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal. Et j'espère que dans 10 ans, dans 20 ans, les gens auront moins de mal. Mais c'est extrêmement difficile aujourd'hui quand on me demande qu'est-ce que tu fais. Je dis, je suis entrepreneur. Et je m'arrête là parce que je n'ai pas envie d'expliquer.
Ouais.
Surtout quand je sais que la personne que j'ai en face n'a peut-être pas l'ouverture d'esprit, n'a peut-être pas le bagage intellectuel, n'a peut-être pas une ouverture au monde tout simplement qui lui permette de comprendre que oui, il existe des métiers dans la culture. Oui, il y a une industrie. Oui, on peut faire de l'argent. Et tu sais, tu vas rigoler. Notre premier centre, on avait loué un. Et puis, on a construit en 2015. 2 ans après que j'ai démarré, quand je me suis rendu compte que c'était plus possible déjà d'allier mes 2 emplois, j'ai quit. Et je me suis dit, je me mets à temps plein dans le dancehall. Je remercie le ciel. On faisait assez d'argent pour que je puisse me permettre de dire ça et de dire, je vais prendre un salaire. Hein. Et
c'était en 2015. Amine.
Et c'était en 2015. Et on nous avait viré de la biscuiterie du jour au lendemain parce qu'on était à la biscuiterie.
C'est vrai. J'avais oublié ça, fauf qu'on commençait.
Le jour au lendemain, on nous avait viré.
Mais c'était magnifique.
Mais oui, on a commencé là-bas. Et je remercierai toujours ma mère pour ce choix parce que je n'avais pas, j'avais pas les couilles. Parce qu'il fallait mobiliser beaucoup d'argent, il fallait mobiliser 20 millions que je n'avais pas, hein. Il faut être honnête. Donc, Love Money, les gens qui faisaient fundraising là.
Oui.
Mon seul et unique fundraising, c'était Love Money pour construire The Dance Hall.
Tu as de la chance.
Et j'ai eu beaucoup de chance.
Tu as de la chance d'avoir eu le Love Money.
Bon, une partie que j'ai beaucoup remboursée aussi. Hein.
Tu l'as eu.
Une chance et une bénédiction.
Tu l'as eu.
Et c'est elle qui a eu le courage de me dire, fais-le. On construit, on y va. Parce que je me disais, et si ça ne marche plus comme avant, quand c'était à biscuiterie, parce que bon, t'es entrepreneur, la situation géographique, elle compte, les gens, ils vont commute pour venir dans ton centre, etc., etc. Et on avait fermé 2 mois, donc bref, c'était compliqué. Elle m'a dit, non, fais-le. Bon, il faut se dire aussi, c'est parce que depuis 2 ans, à la fin du mois, j'ai posé l'argent d'ICA dans ses mains, puisque je travaillais, j'en avais pas besoin, je voulais réinvestir dans The Dancehall. Et dès le premier mois, elle s'est dit, eh, donc on peut gagner de l'argent avec cette histoire. Ça a aidé. Mais quand on construisait, les maçons, quand ils ont su qu'on construisait une salle de danse, ils m'ont dit,
tu as de l'argent à jeter par les fenêtres.
Tu as de l'argent à jeter par les fenêtres. Vous avez trop d'argent, vous ne savez pas quoi en faire. Pour te dire où on en était. Quand on disait, le cours de danse est à 5000 francs l'unité. Les gens, ils nous disaient, mais vous êtes fous. Payez de l'argent pour apprendre à danser. Notre premier spectacle 2014, entrée 5000, les gens, ils ont dit, vous êtes malade. On va venir voir des amateurs sur scène.
Qui dansent.
Qui dansent. Et payer 5000 l'entrée.
En plus.
Dans un pays où on a de la culture et où on n'a pas d'offre culturelle.
Oui.
Où on n'a même pas assez de salles de spectacle.
Ça, mais on danse partout. Et puis, de toutes les façons, on danse partout. Et puis, danser, ce n'est pas un métier.
Voilà. Danser, c'est pas un métier.
Exactement.
Donc, pourquoi je vais payer pour?
Vraiment.
C'est incroyable. Et donc, pour te dire à quel point cette question d'argent-là, à l'époque, était déjà une véritable problématique. Mais heureusement, je pense que le fait d'avoir prouvé le business model, proof of concept, c'était ça mes 2 premières années. 2013-2015, c'était proof of concept. Ça marche. OK, maintenant, donnez-moi l'argent, je vais faire mieux. OK, maintenant, je quitte mon boulot, je vais faire ça.
C'est exactement ça. Et je crois qu'à partir du moment où tu le comprends, ça change le rapport que tu as par rapport à ce que tu es en train de faire. Je suis en train de faire exactement la même chose. C'est de dire, OK, ça va coûter. Ben, ça va me coûter. Ça va coûter à toutes les personnes de mon entourage. Mais après, tu as un produit. Tu as quelque chose que tu peux présenter qui fonctionne, qui vit sa vie, qui continue à évoluer et à partir de là, de pouvoir espérer grandir. Donc oui, je pense qu'il n'y avait que ça à faire, enfin, en vrai.
Il n'y avait que ça à faire et puis surtout, c'était le seul moyen d'être pris au sérieux, comme dis. Encore plus en tant que femme.
2 fois.
Do I fall?
Non. Follow me. Comme je dis aux gens, je dis follow me, c'est clair.
Et ce pourquoi d'ailleurs je te félicite. Et it's the only way. Moi, toutes les personnes qui me posent la question, comment je commence, est-ce que je commence, mets un cadre tout de suite. C'est-à-dire, en fait, quand tu le fais, oui, c'est un investissement humain, moral, financier, physique, parce que oui, tu vas t'épuiser. Oui. Mais en réalité, le fait de mettre ce cadre-là, déjà, ça te permet, toi, de grandir. Quand tu vas grandir, quand tu seras à l'échelle, tu as déjà des process, tu as déjà des équipes, tu sais comment les manager, tu sais comment ton travail il se fait. Exactement. Tu n'es pas en train de tâtonner et de perdre de l'argent. Non, tu investis ton argent parce que tu sais que. Et it's the only way to go. Et l'autre chose, et ça, c'est aussi la question de l'âge, je pense qu'elle est importante. Moi, je recommande toujours aux gens, si vous n'avez pas un safety net, si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour dire, OK, même si je mets 2 millions, 5 millions, 10 millions dans ce truc et que je les perds, je peux manger, je peux boire, je peux me soigner et soigner les personnes dont je suis responsable, prends un boulot. Quitte à ne pas dormir la nuit, mais prends un boulot qui te paye pendant que tu commences à mettre en place. Mais ça ne t'empêche pas de mettre en place avec un cadre.
C'est important.
Il n'y a que ce...
C'est
moi,
très
important.
Non, mais...
C'est moi, les différences.
Exactement. Quand on me pose la question de comment c'est aussi clair dans ma tête de faire les choses, je dis, sauf qu'il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, depuis 2020, là, j'écris tout ce que je dois faire. J'écris ça aujourd'hui, quel que soit l'épisode que je dois prendre, c'est-à-dire la tâche la plus élémentaire, elle est décomposée. C'est écrit. C'est écrit et chacun sait ce qu'il a à faire. Et pareil pour moi, je sais ce que je dois faire en 2020, 2021, 2022, 2023. J'aurai un décalage de 3 mois sur certains, 6 mois sur l'autre, mais graoule. Sauf que c'est, pour moi, c'est comme ça qu'on travaille. Et c'est aussi à ça que sert toute l'expérience que j'ai pu construire par ailleurs, en travaillant ailleurs pendant des années, en occupant un certain nombre de postes de responsabilité.
Tout à fait.
La seule différence, c'est que si tu ne sais pas organiser ton travail, mettre en place ta propre stratégie, etc., et la suivre pas à pas, ben, je ne sais pas ce que tu fais, peut-être que tu pourras avoir un coup de chance, mais c'est important d'avoir au moins une roadmap. Avec mes bullet points, ça.
Mais c'est la base. En fait, il n'existe pas d'autre moyen. Gars, donne une narsen bob.
Non, hein. C'est
pas possible. Comme tu dis, tu peux avoir un coup de chance, mais ça, c'est 1 sur 1 million. Et honnêtement, dans nos conjonctures, au Sénégal, si tu veux prendre cette chance, mon gars, je ne sais pas comment tu fais, c'est peut-être que c'est une affaire. Aïe!
Les gens disent qu'ils font un bras loin. Ils ne disent pas bras long, ils font un bras loin. Non, donc, si tu n'as pas de bras long, tu es mort.
Oui,
c'est ça. Une affaire.
Parce que franchement, je ne peux pas comprendre. C'est tellement dur dans nos contextes de s'en sortir, de sortir son épingle du jeu. C'est pas possible.
Non.
Et maintenant, j'ai aussi ce sentiment-là que, bah, après, c'est normal, c'est la génération. On veut tout vite. Et donc, le fait même de s'asseoir pour travailler au process, les bullet points, le protocole, les marches de cet escalier-là, c'est time consuming, quoi. Ça me prend trop de temps. Je n'ai pas envie de faire ça. Non, j'ai envie d'être dans l'action. Si tu ne t'assois pas là, tu vas tomber. Quand tu vas tomber, tu vas te casser le pied. Tu seras obligé de t'asseoir. Donc, mieux tu choisis de t'asseoir.
Amoule, Madame Tognon.
Et l'autre chose, c'est que les gens pensent que parce qu'on est dans le domaine de la culture ou de la danse,
on s'amuse toute la journée.
Non, mais en fait, ce n'est même pas les mêmes règles. Mais c'est les mêmes règles, Zubida.
Totalement.
Amoule, ben différence.
Mais totalement. C'est la même chose.
C'est la même structure, c'est le même cadre, c'est les mêmes règles.
Et j'arrête pas de répéter ça.
Et on est assujettis aux mêmes taxes.
Mais c'est clair. J'arrête pas de répéter ça aux gens qui disent, ouais, machin, etc., culture. Je dis, mais moi, je ne regarde pas ça. J'ai une entreprise à faire fonctionner. Point à la ligne. Maintenant, OK, ça tombe bien, cette entreprise-là, elle évolue dans un secteur qui est bien particulier, mais c'est les mêmes règles d'entreprise qui vont s'appliquer à une société immobilière, c'est les mêmes règles d'entreprise qui vont s'associer, je ne sais pas, à une société de nettoyage, à une fintech,
C'est les mêmes, et parfois même, eux, ils ont plus de chance que nous, parce qu'il y a des exonérations de ceci, parce qu'on pense à eux.
Et on les prend au sérieux.
On les prend au sérieux, et on réfléchit à leur cas particulier,
mais clairement,
ce qui n'est pas le cas de la culture au Sénégal.
Non, absolument pas.
Pas du tout. Donc j'espère que ton podcast arrivera à Monsieur le Président de la République. On attend toujours le statut spécial des entrepreneurs de la culture.
Mais sérieusement.
Nous vous remercions.
Non, merci par avance. et tu vois, là, ça me fait ma transition sur le fait que tu n'es jamais resté à ta place. Tu n'es jamais resté à ta place. À quel moment de ta vie tu as su que tu ne resterais pas à ta place? Deuxième film, là, yam lo.
Musu moko ham.
Ok.
Hamo kan la ham. Il y a 3 semaines, avec mon psy.
Ouais. Que tu n'es jamais resté à ta place, ouais.
En fait, non. Je l'ai jamais su. On était en train d'explorer les choix de vie que j'ai eu à faire et les futurs choix de vie que je vais être amenée à faire. Et elle me dit, il semble que dans votre vie, vous n'avez pas de mal à être en dehors des codes, à faire des choix assez atypiques, qui ne sont pas ceux qui sont attendus. Mais pour telle question, vous avez du mal. J'ai dit, ah bon? Et c'est ce jour-là que je me suis assise, j'ai dit, ah mais en fait, c'est vrai. Parce que pour moi, Zubida, je vais aller dans la danse. c'est pas attendu de moi, je vais le faire quand même.
Ouais.
I don't care.
Ouais.
Je l'ai fait parce qu'il y avait quelque chose à faire. Mm. Il y avait une opportunité.
Tu l'as
Il y avait une passion. Mm. Il y avait un besoin. Et il y avait des personnes avec qui je pouvais le faire. Et il y avait un plaisir énorme à le faire. Mm-hmm. Pareil, quand j'ai fait des médias, que j'ai lancé des magazines, j'ai commencé les podcasts. Il y a une opportunité. Je sais le faire. Je peux le faire. Je le fais.
Exact.
Et je ne réfléchis pas, en fait. Surtout, ce à quoi je pense, c'est quel impact j'ai. Mais je ne pense pas... Mais ce n'est pas ce qui a attendu de moi.
Ouais.
Parce que la voix de mon père.
Et tu m'ouvres une superbe parenthèse. Et c'est très rare qu'on aborde ce genre de sujet. Tu le dis, tu as eu rendez-vous avec ta psy. Tu en as parlé avec ta psy il y a 3 semaines. Ouais. Comment on voit une psy en étant sénégalaise et en l'assumant entièrement?
Ouais, yo. De mon psy. Fan ngay mudé. Pour moi clair. Go ak jigen nak parce que gars dañ fonni jigen dañu bëri wax.
Exact.
Ñom ñoo mëna soxla que ñu waxal. Dañu dem bu len séti psy. Instant 2023 ñëpp dof.
Ñëpp dof.
Ñëpp dof. Tout le monde il est fou.
Je te jure.
Écoute, on voit une psy parce qu'on vit des épisodes assez difficiles dans sa vie hein, tout au long. Moi, j'ai commencé à voir ma psy. Peut-être j'avais 27 ans.
Ah oui.
Bon, c'est pas la même entre-temps, à des moments différents. Mm-hmm. J'ai fait un burn-out professionnel, j'ai dû voir un psy.
Clairement.
J'ai eu des difficultés, j'ai divorcé 2 fois.
Ah ouais.
Je suis à mon 3e mariage.
Ah ouais. Ah ouais. Bah, je savais pas. Ça, petite par contre, je savais pas. Ça, je savais pas.
Exclusivité.
Non, je savais pour le premier, mais très honnêtement, je savais pas pour le deuxième.
Oui, non, parce que vraiment, le deuxième était un non-épisode.
Ok. Passons.
Oui, donc il y a des épisodes qui nous emmènent à dire « Ok, tu sais quoi? Je vais demander de l'aide. »
Oui.
Et je pense que « Toluna for Hamantane », j'ai pas peur de me dire « Ça ne va pas. »« Kanmoum simone gene. »
Ok.
Et ça, y compris dans ma vie de tous les jours. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit bisou à Youssou. Youssou Ndiaye qui est un des fondateurs de Wikai. Qui, pour moi, en fait, a été une bénédiction dans ma vie. Lorsque j'ai commencé à entreprendre, parce que ça faisait plus longtemps, il avait plus d'expérience, il avait une bienveillance incroyable, et il avait une intelligence émotionnelle et une intelligence... C'est incroyable, en fait. Et c'est comme ça que j'ai appris à m'appuyer sur mon écosystème, en fait. On n'est pas seul, on a besoin des autres.
Oui.
On a besoin des autres. Et quand on réussit à avoir autour de soi des personnes bienveillantes, I need you back, et qui n'ont envie que de nous voir réussir, ben on n'a pas de mal. Man, j'ai toujours un peu de difficulté. T'es word, il y a le bataille avec les gens qui disent « Ah, je ne vais pas dire ça, mes
non,
choses,
non,
parce
non.
que d'une meilleure... »
Non, 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 non.
Et je me dis « Mais who are your friends? Qui sont vos amis ?»
Exactement.
Comment vous les choisissez? Je ne refuse pas, ça existe, hein, Brine and Fee. Cut them out.
Oui.
J'ai pas envie de leur parler. Non, soyez loin de moi. Et je suis OK avec le bruit quand il est loin de moi. Parce que c'est pas où je mets mon focus, ma concentration. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à apprendre à demander qui sait faire ça, Mounou Mokodev, je sais pas le faire. Qui sait le faire? Qui peut m'aider? Apprends-moi. Je viens m'asseoir. On avait des conversations pendant des heures. Tout à l'heure, on discutait en off en se disant on va se faire une petite retraite
Exactement.
Féminine, entrepreneur, mais littéralement, damay watch tasam auto dem talk arba a palabra la donne tout des lettres communes.
Oui.
Sunyo et 9 podcast.
Je le verrai demain.
Il était sous l'arbre à palabra avec nous et on discutait d'entrepreneuriat et de la difficulté aussi de se réinsérer dans la société parce qu'on était tous partis quasiment et on est revenus. Et c'est à partir de là que j'ai compris que j'ai le droit d'appeler à l'aide. Et donc, y compris pour ma santé mentale, j'ai le droit d'appeler à l'aide. J'ai de la chance, j'ai des amis, j'ai de la famille. Mais qu'on est avec ce ligué. Parce que sous Bessama, lors de Damon.
Tu vas voir un médecin.
Je vais voir un médecin.
Oui.
Je ne vais pas dire à mon ami, souffle dessus.
Souffle dessus, ma fracture va se résorber. Ouais, non, mais...
Et donc, quand tu sens qu'émotionnellement et psychologiquement, il y a une fracture, c'est un très bon terme que j'ai utilisé. Eh bien, tu vas voir la personne dont c'est le métier. Le métier, c'est le psychologue.
Exactement.
C'est pas pour les fous.
Non, c'est pas pour les fous.
On a tous besoin d'aide.
Et d'ailleurs, c'est quoi être fou?
Ça, c'est... Chief, philosophique.
Non, mais on va... Je vais pas y aller. Je vais vraiment pas... Je vais vraiment, vraiment, vraiment pas y aller.
Et c'était ça.
Ouais.
Qui m'a mené vers une psy. Et voilà. C'est... Même quand on n'a pas de problème, entre guillemets, parce qu'on en a toujours, mais je veux dire, pas de difficultés incroyables, pas un moment, c'est pas un deuil, c'est pas, voilà. Il y a quand même des avantages à aller parler avec quelqu'un qui arrive à mettre des mots sur nos mots.
Exactement.
M-A-U-X.
Exactement.
Et qui finalement nous permet de comprendre aussi, de faire les connexions. Pourquoi ça, ça résonne en moi de cette manière?
Exact. Et pourquoi je fonctionne comme ça? Pourquoi je reproduis tel schéma? Pourquoi?
Exactement. Oui. Et ça, franchement, c'est, ça allège tous les jours. Ça permet de voir la vie avec un meilleur œil. Parce que la vie n'est pas facile, hein? Yamboule!
Non, c'est chaud. Non, sérieusement, c'est chaud. Et aujourd'hui, j'avais cette discussion-là avec, avec un ami. Hein, il m'a dit, comment tu vas? J'ai dit, je vais. Je respire, je marche. Alhamdoulilah. Il me dit, Taneganyoubari. Et... mais qu'est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que c'est bateau? Mais qu'est-ce que c'est vrai? De temps en temps, on l'oublie, que la vie est dure, mais on continue à avancer. Et puis, fin, djerna, pas mon problème.
C'est vrai.
On continue à avancer, comme je dis tout le temps, un pas après l'autre. Un pas après l'autre.
Il n'y a que ça, one day at a time. Un pas après l'autre, un jour après l'autre, une pensée après l'autre, un projet après l'autre. Et c'est ça. Je suis à 100% d'accord. On oublie parfois d'être reconnaissant.
Oui. Et c'est important pour moi de m'en rappeler très souvent, de faire preuve de gratitude, de me rappeler d'être reconnaissant envers les gens, parce qu'il y a plein de gens autour de moi qui ne sont pas forcément les personnes les plus proches à la base, mais qui ont été les personnes qui ont de vrais piliers quand j'ai décidé de sortir des clous. Je n'ai jamais été dans les clous, mais quand tu décides de sortir des clous, il y a d'autres gens encore qui viennent te renforcer. Et ça, j'ai découvert des gens, j'ai appris à connaître des gens d'une autre manière. Et quand je t'entends évoquer Youssou Ndiaye, j'ai tellement entendu parler de Youssou Ndiaye que j'ai l'impression que je le connais alors que je ne le connais pas.
Si mais... c'était conversation pas féminine, je t'aurais dit invite-le.
Invite-le, d'accord.
Il est incroyable. Donc, mais un jour, on trouvera un podcast où on va l'inviter.
Exactement. Et à partir de là, on pourra l'inviter et on pourra discuter autour de ça. Mais d'avoir ce relais-là, et c'est ça qui m'aide à tenir aujourd'hui. Je sais que quand je vais craquer, je peux appeler quelqu'un.
Oui.
Tu vois, juste parce que j'ai pas besoin que tu me trouves une solution. Je veux juste me sentir assez safe pour craquer, c'est tout.
Et c'est important. Je pense aussi c'est important de dire aux femmes, mais y compris aux jeunes femmes, en fait, il n'y a pas de, à mon sens en tout cas, il n'y a pas de fierté particulière à dire je me suis faite seule.
Mais ça n'existe même pas en vrai.
Exactement. Mais beaucoup peuvent le penser en se disant, mais en fait, tout le monde, enfin tout le monde entre guillemets, hein, c'est toujours une question de perspective.
Exactement.
Tout le monde m'a abandonnée, j'ai dû me battre, j'ai dû faire ça. Mais en réalité, sur ce chemin-là, peut-être que ce ne sont pas les personnes auxquelles on s'attendait.
Exactement.
Peut-être que ce ne sont pas la famille directe, ce n'est pas... voilà, c'est pas ces
mais
personnes-là.
Y a toujours quelqu'un.
Mais il y a toujours des gens qui ont contribué à qui nous sommes. Et je ne parle pas de réussite, parce qu'on pourrait débattre des heures sur la définition de la réussite, mais juste qui nous sommes au moment T. Ouais. Où est-ce que nous en sommes professionnellement, émotionnellement, humainement et en tant que femme? Il y a des gens qui ont contribué à ça. Et si on est dans la partie positive de la balance, alors on doit être reconnaissant envers ces personnes-là et savoir les reconnaître.
Très, très important de faire ça. Mariama, nous arrivons à la fin. Et ça a été un réel plaisir de discuter avec toi. Et comme pour tout le monde, on finit avec deux questions. Et la première question, c'est est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, tu es à ta place, celle que tu t'es choisie, celle que tu t'es forgée, ta place?
Oui. Je pense qu'aujourd'hui, je suis à 100% à ma place.
Mm-hmm.
Tous les choix sont les miens. je ne me suis... j'ai pas envie de dire je ne me suis rien vu imposer, parce que oui, parfois il y a eu de ces épisodes, mais en tout cas, à chaque fois, j'ai su faire éclater ces chaînes. Mm-hmm. Et donc, ça veut dire que je reste dans la... Je reste dans l'arène. Mm-hmm. Je reste dans l'arène en me disant, d'abord, tu choisis, et si tu peux pas, eh bien, tu trouves quand même le moyen de sortir de cette situation. Et à chaque fois, j'ai... Comment on appelle ça? Marguia. Les caméléons, là.
Ah oui, caméléon.
Je suis comme ça. Je dis, ah, tu veux que je sois jaune. Ok,
attends. Bah, vert et maganol. Ouais. Dis-moi, si tu avais 20 ans cette année, aurais-tu aimé savoir, être, faire, devenir, rencontrer cette... Et qu'aurais-tu peut-être tu dis à cette version de toi? Je ne sais pas. 20 ans cette année.
Déjà, je remercie le ciel de n'avoir pas 20 ans en 2023. Parce que vraiment, les jeunes de 20 ans là, Yom Nalen, j'ai pitié, voilà. Parce que 2023, c'est dur. Le monde dans lequel on vit, il est dur. Mm-hmm. Oh, qu'est-ce que... Écoute, je vais aller sur les mots parce que je pense que comme toi, c'est ce que je connais le mieux. Ce que j'aurais aimé entendre. D'abord, rien n'est définitif. Quelle que soit la situation qu'on vit, ça va s'arrêter, ça va changer, il y aura une mutation. La vie est faite de mutations. Que ce soit dans le domaine privé, que ce soit dans le domaine professionnel, peu importe. Parce que je trouve que beaucoup trop de jeunes ont l'impression que ce qu'ils vivent est définitif et que, oh my God, c'est la fin du monde. Et donc, si on ne trouve pas la solution révolutionnaire tout de suite, on est au bout du gouffre. Ouais. C'est une contre-vérité. Et j'aurais aimé qu'on me dise ça aussi quand j'avais 20 ans pour que je me prépare mieux. La deuxième chose, c'est justement toujours en lien avec ces mutations, c'est qu'il faut choisir d'être flexible. La flexibilité est un choix. En entrepreneuriat, ce serait de dire, voilà mon plan, mon business plan, voilà ma vision, et on se rend, voilà mon service, voilà mon produit, on le met sur le marché dit non. Et on dit non, c'est ça mon produit. Et puis pendant 20 ans, c'est ça ton produit. Et en fait, il fait faillite. Non. C'est de pouvoir se dire, ok, c'était ça mon produit. Voilà comment il réagit au marché. Voilà comment le marché est en train de me demander d'ajuster. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je change assez rapidement? Parce que justement, le fait d'accepter le changement, déjà de l'accepter, nous permet d'être plus créatif. De dire, ok, donc ça veut dire qu'il faut que j'enrobe finalement cette bouteille d'eau. Il faut que je fasse autre chose. Et je crois que c'est le seul moyen de naviguer dans la vie sans prendre des coups trop durs. D'accepter d'abord que la vie est faite de mutations et que nous, fondamentalement, nous devons muter avec et rapidement.
Exactement. Merci beaucoup, Mariama. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de Conversation Féminine. Merci beaucoup.
Merci, Zubida, en te souhaitant beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès.
Merci beaucoup. C'est gentil. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conversation Féminine. Je vous retrouve tous les 15 jours sur Du Coq à l'Âne. Ainsi, des chats mourir au flot. Na sono di bugino, deixa morrer da sonhar. É assim que uma bomba nasce ninho, assim deixa morrer o flor. Na sombra de boldinho, deixa morrer da sonhar. É assim que uma bomba nasce ninho.